There is this thing.
Do you realize
what is there is this thing?
Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing
on.
There is this thing going on.
What?
Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Bonjour, bienvenue sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Aujourd'hui, nous allons écouter une émission des oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel, intitulée « Bâtonner, comment l'argent détruit le journalisme », une entrevue avec Sophie Eustache. Comme il est écrit, cette semaine, dans les oreilles loin du front, nous avons reçu Sophie Eustache, qui est journaliste, notamment pour le monde diplomatique, et co-animatrice de l'émission « La suite au prochain numéro » sur Fréquence Paris Pluriel. En mars 2020, elle a publié aux éditions Amsterdam « Bâtonner, comment l'argent détruit le journalisme ». Nous sommes revenus avec elle sur le sens de ce verbe « bâtonner » entre guillemets, sur le fonctionnement actuel des médias, sur les conditions de travail précaires de nombreux et nombreux journalistes, sur tout le mal que le néolibéralisme fait à une information de plus en plus marchandisée.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'est une nouvelle émission des Oreilles Loin du Front enregistrée à distance qui commence. Ce soir, nous allons voir ce qui se passe de l'autre côté des médias avec Sophie Eustache. Les auditeurs et auditrices de Fréquence Paris Pluriel la connaissent déjà puisqu'elle co-anime la suite au prochain numéro qui est diffusé de 18h à 19h tous les 4e lundis du mois. Sophie Eustache écrit aussi pour Le Monde Diplomatique et La Nouvelle Vie Ouvrière. Mais l'entretien porte avant tout ce soir sur son livre « Bâtonner, comment l'argent détruit le journalisme », publié aux éditions Amsterdam en mars 2020. Pour introduire cette émission, nous avons souhaité lire l'appel à témoignage lancé par Sophie et deux de ses amis, témoignages qui viendront nourrir la réflexion du livre. Journaliste, rédacteur, pigiste, JRI, photographe de presse, documentaliste radio, stagiaire, précaire, vous tous ont le métier de transmettre l'information. Vous avez été censuré dans la rue ou par votre hiérarchie. Vous travaillez pour un employeur qui contourne la convention des journalistes en vous imposant abusivement un statut d'auto-entrepreneur, d'intermittent ou en vous payant en droit d'auteur. Vous subissez une pression constante pour améliorer votre productivité, quantité d'articles à écrire, reportages à réaliser. Vous n'avez plus les moyens ni le temps d'aller sur le terrain. Vous n'avez plus les moyens ni le temps d'enquêter. Vous n'avez plus les moyens ni le temps de recouper vos informations. Vous devez choisir vos sujets en fonction de leur potentiel d'audience. Vous devez créer du contenu plutôt que traiter de l'information. Vous publiez des articles non relus. Vous avez des managers et non plus des rédacteurs en chef. Vous avez été témoin de suppression de postes, de coupes dans les budgets pige et dans les salaires. Vous avez choisi d'être pigiste et vous enquêtez des semaines pour au final être payé au lance-pierre. Vous avez dû signer un article réécrit ou retitré par votre chef pour être plus racoleur. Vous n'avez pas reconnu les images ni le sens donné aux images que vous avez rapportées d'un tournage. Vous avez eu l'impression de piétiner la déontologie de votre métier. Vous en avez souffert. Si vous vous sentez concerné par une ou plusieurs situations décrites ci-dessus, que vous souhaitez témoigner ou nous parler du journalisme auquel vous aspirez, contactez cette adresse, lesjournalistesatterrés@gmail.com. Est-ce qu'il y a un événement qui a présidé à l'écriture de ton livre ou c'est un constat global que tu as fait à un moment de ta carrière de journaliste qui t'a donné envie d'écrire ?
L'événement, en fait, le contexte de base de ce livre, c'est les manifestations contre la loi travail. En 2016, à l'époque, je bossais pour un groupe de presse pro et j'étais hyper investie contre la loi travail et dans Nuit debout. Et donc, je voyais à la fois le traitement médiatique qui était fait et les réalités. Et je connaissais les réalités du travail de terrain de journaliste, donc la précarité, les conditions de travail un peu difficiles. Donc, je comprenais les critiques que les manifestants faisaient aux journalistes quand ils les voyaient sur le terrain. Et en même temps, je connaissais aussi les conditions de travail de ces journalistes qui n'étaient pas idéales, qu'ils n'avaient pas toujours la main sur le montage et les commentaires qui ont été faits sur les images qu'ils ramènent. Donc, ça m'a un peu donné, enfin, de constater ça, en fait, un peu ce tiraillement. J'étais prise entre et mon métier et mon engagement militant, quoi. Donc, ça m'a donné envie de montrer les réalités du métier pour le faire connaître au grand public et pour avoir cette distance après sur cette distance d'analyse du traitement médiatique qu'on peut comprendre aussi par les conditions de travail des journalistes. Donc, avec deux amis, on a fait un appel à témoignages qui est au début du bouquin. Et on a eu pas mal de retours à l'époque parce qu'il y avait un peu une émulation. C'était l'époque où je crois que c'était aussi peu après l'appel à témoignages qu'avaient fait des youtubeurs, je ne sais plus, sur les conditions de travail en général des jeunes. Ils en ont fait un petit manifeste aussi. Tout ça a fait qu'on a reçu pas mal de témoignages, une trentaine. Et ensuite, moi, j'ai fait des entretiens plus approfondis avec sept journalistes.
Donc, tu mets dans ton livre cet appel à témoignages. Et après, donc, comment tu as travaillé ? Tu avais déjà une base théorique sur laquelle tu voulais amener les gens, ou c'est juste des témoignages écrits que tu as reçus sans forcément entrer plus dans l'entretien avec les personnes qui t'avaient contacté ? Comment ça s'est passé pour ce...
Non, j'avais aucune base théorique à l'époque. J'avais juste vu Les Nouveaux Chiens de Garde. et donc, c'est même pas... Il y a un peu de sociologie, mais c'est quand même plus un travail journalistique de critique des médias assez classique, comme fait Agrimed. La théorie, je l'ai acquise en parallèle de l'enquête que je menais, des entretiens que je faisais. J'ai lu de la sociologie du journalisme, des travaux sur l'histoire des médias, sur l'économie des médias. Et justement, ça m'a permis d'analyser après les entretiens, de les regarder avec plus de distance. Et oui, ils viennent illustrer cette théorie. Et ça permettait aussi, cet apport théorique, de ne pas être dans l'actu chaude, c'est-à-dire cette réalité des journalistes, c'est le fruit d'une histoire qui remonte au 19e siècle, que c'est pas nouveau en fait, cette concentration des médias, cette logique de rentabilité, on la voit dès le 19e aussi, c'est ce financement par la publicité. Donc aussi historiciser, ça permettait de prendre de la distance et de pas tomber dans le discours c'était mieux avant, ou l'autre discours un peu technophobe, c'est la faute à Internet. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, les technostructures s'imbriquent dans un système économique. Et... Donc, c'est un peu ce que je voulais démontrer dans le livre. Et aussi sortir de l'explication individualisante et un peu morale. C'est-à-dire, les journalistes, individuellement, n'ont pas de déontologie. Et c'est pour ça que le traitement est mauvais. Et c'était... un peu pour aussi sortir ce discours, dire c'est des conditions matérielles qui expliquent le traitement médiatique et une réalité sociologique aussi.
Dans ton livre, assez fréquemment, tu fais un point sociologique et familial sur les personnes qui t'ont contacté. Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre ça dans ton enquête ?
Parce que c'est, la sociologie des journalistes, ça explique aussi le traitement médiatique. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant les profils qui apparaissent dans le bouquin, parce que ils viennent d'un milieu ouvrier, donc ils sont pas tellement représentatifs en fait, ces jeunes dans le bouquin, de la plupart des journalistes qui viennent plutôt de la bourgeoisie en fait. Donc et ça peut, bon, ça c'est une hypothèse que j'ai pas du tout démontrée, mais je me disais que leur origine sociale s'expliquait aussi qu'ils se situent dans le champ journaliste à une position hyper dominée, c'est-à-dire dans une position de grande précarité, dans les services web où leur travail est dévalorisé, où ils sont dévalorisés par rapport aux journalistes qui travaillent pour le papier qui est toujours plus valorisé. Mais ça, voilà, c'est une hypothèse que je fais et... là, à l'oral, mais d'ailleurs que je ne fais pas du tout dans le livre. Mais oui, ça, je trouvais ça important de parler de leur origine sociale.
Tu as commencé l'émission en disant que ce qui t'avait donné envie d'écrire ce livre, c'était notamment la réaction des manifestants ou des gens plus largement à l'égard des journalistes. Ça, c'était il y a quelques années. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le regard est en train de changer sur les journalistes, notamment avec tout ce qui se passe au niveau répressif?
Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a quand même eu les Gilets jaunes en 2018 où on voyait cette critique-là qui était... il y a eu beaucoup des attaques contre les journalistes, des attaques même individuelles en manif où les journalistes s'étaient pris à partie. Il y a eu là où c'était un peu plus politisé comme critique avec des manifestations devant des médias. Et je ne sais pas si le fait que les journalistes soient réprimés, ça ait atténué la critique que le public peut en avoir, j'en suis pas sûre. Parce qu'en plus, c'est en fait en 2016, les journalistes, il y avait déjà des travaux de street press qui montraient que les journalistes étaient réprimés et étaient visés par la police. Donc c'est pas tout à fait nouveau, même si ça s'est durci récemment. Et puis que là, ça risque d'être, c'est légiféré. Ils veulent faire rentrer ça dans un cadre légal, cette répression. Non, j'en suis pas convaincue en fait. Après, si les journalistes arrivent à s'organiser collectivement, à mener la bataille et à la gagner, peut-être que ça changera le regard du public, mais pour l'instant, je pense pas.
Alors, je voudrais revenir sur le choix du titre. Je ne sais pas si c'est un choix de ta part ou un choix d'éditeur, mais parce que ton livre s'organise autour de verbes qui renvoient à différentes fonctions, il y a des fonctions, mais il y a aussi des pratiques, voilà, déposséder, marchandiser, numériser, copier-coller, couper, censurer, il y a un petit jeu de mots, checker. Alors, bâtonner, tu reviens dessus, hein, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi avoir choisi ce verbe-là comme titre ?
Ouais, c'est une proposition de l'éditeur. Au début, j'étais pas, j'étais un peu réservée sur cette proposition parce que c'est du jargon et ça veut dire copier-coller une dépêche AFP. Et après, comme toujours, quand un titre est proposé, on trouve une explication plus large après, une fois qu'il est adopté. Au final, ça pouvait aussi être entendu comme matraquer, taper quelqu'un à coup de bâton, donc faire du matraquage médiatique. Et comme le livre parle et des conditions de travail, mais aussi et du traitement médiatique, au final, je me suis laissée convaincre par ce titre. Mais c'est vrai que, en même temps, ça résume bien ce qui est le métier des journalistes qui travaillent dans les services web après l'école. C'est beaucoup un travail automatisé où on copie-colle des dépêches qu'on illustre avec des photos et on enchaîne comme ça. On peut en publier une dizaine par jour. Donc, voilà pourquoi ce titre a été choisi.
Et l'organisation du livre, c'est toi en revanche qui l'a pensé comme ça ?
Oui, c'est-à-dire que je me suis quand même inscrite dans une collection, qui est la collection L'Ordinaire du Capital. Donc j'avais lu d'autres ouvrages avant, dont un sur la condition des agriculteurs dans la Beauce. Et je me suis un peu inspirée de certaines choses, notamment illustrées par des documents. Donc moi, j'ai mis des offres d'emploi, j'ai mis des documents internes. Et ça, ils le faisaient et j'avais trouvé que c'était une chouette idée. Et après, la construction, oui, c'est moi qui ai proposé le plan et c'est toujours, de toute façon, c'est souvent un dialogue avec l'éditeur. Donc, je me suis quand même inscrite dans cette collection et après, j'ai construit avec la matière que j'avais aussi.
Nous sommes en compagnie de Sophie Eustache, journaliste qui travaille pour Le Monde Diplomatique et La Nouvelle Vie Ouvrière et que nous recevons pour parler de son livre publié aux éditions Amsterdam en mars 2020, « Bâtonner, comment l'argent détruit le journalisme ». Alors, le sous-titre, c'est « Comment l'argent détruit le journalisme ». Et donc, forcément, tu parles des journalistes. Et les journalistes, c'est quand même une catégorie très vaste parce que ça va de l'éditorialiste ultra célèbre au pigiste, etc. Est-ce que tu peux revenir sur ces différents profils ? Parce que toi-même, dans le livre, tu dis que, bon, en fait, pigiste, les gens, ils ne voient pas vraiment ce que ça veut dire, quoi.
Ouais, journaliste, c'est hyper différent. Déjà, si on est journaliste à la télé, si on est à la presse écrite, si on est salarié permanent, ou non permanent, et pigiste, en fait, c'est salarié non permanent, donc on est payé certes en salaire, mais à l'article, donc à la tâche au final. Et donc, bon, c'est même si normalement la loi protège assez bien les pigistes, en fait, comme c'est très difficile de la faire appliquer, les pigistes sont quand même des travailleurs précaires et isolés. Donc oui, c'est pas pareil d'être Christophe Barbier et d'être un pigiste qui galère pour s'en sortir. Et en même temps, il y a on retrouve des caractères communs. Tu vois, par exemple, dans la façon dont les journalistes sont socialisés, dans la façon dont, dans leur formation, ils partagent certaines croyances comme le rôle de contre-pouvoir. Donc, les journalistes, en fait, mystifient beaucoup leur métier. Et ça, c'est partagé autant par le pigiste que par les journalistes qui sont à des postes de pouvoir dans les rédactions. Donc voilà, c'est ça aussi que j'ai essayé de démontrer dans le bouquin, c'est que D'une, il y a les conditions de travail qui expliquent le traitement médiatique, mais il y a aussi les mythologies que partagent les journalistes qui sont cette croyance dans le fait que la presse, c'est un contre-pouvoir, que c'est un pilier de la démocratie. Bah, oui, peut-être dans les textes, mais le fait est qu'elle est quand même essentiellement aux mains d'industriels qui n'ont pas l'intérêt de la démocratie ou de la liberté d'information en priorité. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question.
Si, mais il y a une catégorie dont tu n'as pas parlé et que j'ai découverte en lisant ton livre, c'est ce qu'on appelle les deskers.
Oui, les deskers, c'est des... En fait, aussi, c'est ça qu'il faut nuancer, c'est-à-dire que journaliste, c'est une profession, et dans cette profession, il y a plein de métiers. Donc, il y a secrétaire de rédaction, ce sont ceux qui corrigent les articles, et il y a les deskers qui sont ces... Alors, le desker, ça peut être deux choses. C'est soit les journalistes qui montent les images qui vont être diffusées sur les chaînes d'infos en continu, soit des journalistes des sites web qui écrivent à la chaîne des articles. Donc moi, j'ai parlé dans le livre que de cette catégorie-là, c'est-à-dire les journalistes qui remplissent en fait les sites web d'articles pour satisfaire un peu l'algorithme et que les articles soient bien placés dans Google Actu ou dans Facebook, dans Twitter, tous ces agrégateurs un peu de contenu.
Tu as parlé à un moment des mystifications autour du métier de journaliste. Voilà. Globalement, la plupart des journalistes en France viennent des mêmes écoles.
Je ne sais pas quels sont les chiffres, mais en effet, il y a 12 écoles reconnues. Et en tout cas, c'est clairement, eux, ils ont des partenariats avec les grands médias. Donc, c'est eux qui fournissent les journalistes qui vont aller au Monde, à France Inter, à tous ces grands médias. Après, il y a des écoles un peu plus confidentielles, des écoles privées, donc qui forment des journalistes ou qui n'ont pas de partenariat avec ces grands médias, qui vont avoir des partenariats avec des médias un peu moins prestigieux, donc BFM, iTélé. Moi, je sais que l'école... que j'ai faite, il y en a beaucoup des anciens journalistes qui sont partis à iTélé, à BFM, ces chaînes qui, à l'époque, moi j'ai commencé à travailler il y a 10 ans, donc à l'époque elles embauchaient quand même pas mal de jeunes journalistes. C'est pas une profession où il faut obligatoirement faire une école, mais c'est beaucoup plus facile, et de toute façon les grands médias comme Le Monde ou France Inter exigent que le journaliste sorte d'une école reconnue pour le recruter.
Et ce qui ressort à ce sujet-là aussi, c'est le côté un peu formaté de ces gens qui, en fait, utilisent tout le temps les mêmes termes. Et finalement, c'est ce que tu dis, on se retrouve avec un journalisme qui a, notamment sur les plateaux télé, une sorte de pauvreté au niveau du langage.
Ouais, et en plus, les journalistes reprennent les mots de la communication ou du pouvoir. Donc, les euphémisations, comme... charge sociale, je pense à Jean-Jacques Bourdin qui... là, je suis en train de lire son livre... pour une future enquête.
C'est courageux.
Ouais, mais en fait, je trouve ça hyper intéressant de comprendre comment pensent ces gens. Et du coup, lui, il dit qu'il est ni de droite ni de gauche, mais sauf qu'il reprend complètement dans ses interviews la rhétorique du patronat et les mots du patronat qui sont... l'autre fois, j'ai écouté une interview, il parlait de charges sociales, alors qu'en fait, c'est des cotisations sociales. Ils vont parler... il y a plein d'exemples... Je les ai même plus tous en tête, mais voilà, cette euphémisation en fait des violences sociales, mais même de la conflictualité entre classes sociales. Et ces mots-là, ils sont clairement mis sur le en circulation par le champ du pouvoir. Et ils sont repris sans aucun questionnement par les journalistes, et ça pour plein de raisons, parce que sociologiquement, ils font confiance quand même beaucoup aux institutions, au pouvoir. Qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir aux mots qu'ils utilisent. Donc, quand on est obligé de copier-coller des articles, on reprend les termes qui sont dans le communiqué de presse, qui sont à l'AFP. À l'AFP, c'est le même phénomène qui se produit. Donc, et c'est fou à quel point le pouvoir arrive à imposer dans le champ médiatique son propre vocabulaire.
Ça rejoint un peu quelque chose qui apparaît tout au long de ton livre, c'est le côté urgent du travail. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a le temps. Enfin, tu dis, en gros, ce serait bien qu'on fasse de longues enquêtes, etc. Mais c'est pas ça qui permet de manger parce que ça demande. Ou alors, on est vraiment salarié et on nous offre la possibilité de faire un travail d'enquête sur le long terme. Sinon, il y a quand même ce côté un peu urgent tout le temps de devoir tout le temps, tout le temps, tout le temps publier du contenu.
Bah, dans ces services web, il y a clairement une pression à la productivité.
Du coup, c'est présent que dans les rédactions web.
Alors, ce productivisme poussé à ce point, c'est-à-dire où il faut écrire 10 articles par jour, ça, c'est très présent dans les rédactions web en fait, des médias privés, parce que je pense qu'à Arrêt sur Image, par exemple, qui est une rédaction web aussi, ils ont pas. Il y a toujours un devoir de produire des choses, mais ce n'est pas à ce rythme-là. Et après, il y a aussi ce. Quand je parlais des mythes que se racontent les journalistes, c'est-à-dire que le fait de travailler dans l'urgence, c'est valorisé. Sauf qu'il y a d'autres professions qui travaillent dans l'urgence, ben les urgentistes, c'est même dans le titre, et ils se racontent pas, enfin, ils en font pas une valeur. C'est très romantisé, quoi, ce truc de travailler dans l'urgence, d'être toujours près de son téléphone pour recevoir une alerte. Donc ça s'explique un peu par la mythologie du métier et par les contraintes industrielles où, en effet, dans ces sites web et même dans les chaînes d'info en continu, il faut produire très vite. Il y a une demi-heure pour faire un article. Donc forcément, on ne vérifie pas. Et ça, c'est propre aux médias privés parce que c'est des médias qui sont financés par l'audience. Et l'audience, sur Internet, elle provient des réseaux sociaux, beaucoup. Et les réseaux sociaux, ils mettent en avant les médias qui produisent beaucoup. Donc voilà, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue.
Est-ce qu'il y a un lien entre la précarisation du métier de journaliste et l'ouverture au journalisme sur Internet? Ou est-ce que, en fait, non, ça a toujours été une profession dans laquelle il y avait quand même une forme de précarité? Ou alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle s'est accentuée ces 20-30 dernières années?
En fait, j'ai un peu du mal à voir parce qu'il y a un bouquin qui a été écrit dans les années 90 qui s'appelle Journaliste précaire, journaliste au quotidien, qui est un bouquin d'Alain Incardo. Et quand même, il raconte, c'est des entretiens avec des pigistes et la précarité, elle est déjà très présente. Après, le problème, c'est qu'Internet, c'est pareil, ça s'inscrit dans le système capitaliste. Donc, les journalistes, ils ont pas échappé à la précarisation du travail, en fait, à la destruction, bah, à la loi travail, typiquement, toute cette flexibilisation du travail qui est mise en place depuis les années 80. Bah, les journalistes, forcément, c'est des salariés, ils en ont fait les frais. Et par ailleurs, il y a une concentration qui s'est accentuée aussi. Patrick Drahi qui a racheté BFM, et à chaque fois que ces médias sont rachetés, ça produit des plans de licenciement, donc des journalistes qui se retrouvent soit pigistes, soit changent de travail. Donc, c'est pas que Internet, en fait, c'est Internet dans cette réalité, dans ce libéralisme-là, quoi, qui a créé de la précarité. C'est l'analyse que j'en fais. C'est pour ça que je voulais pas que ça s'appelle Internet a détruit le journalisme, mais que plutôt le capitalisme.
Justement, le côté capitaliste de la chose, ça amène des choses dans le travail même de journaliste. Alors, tu parles de l'externalisation?
Ouais. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais déjà à la télé, les productions de reportages, de documentaires sont beaucoup produites à l'extérieur. Je crois qu'à France 3, c'est plus que 30% qui est produit en interne, et sinon, c'est des boîtes de production qui produisent ces documents télévisuels. Mais en tout cas, il y a des entreprises qui fonctionnent un peu comme des startups qui vendent des articles clés en main à des journaux. Et donc, ces médias-là, en général, ils embauchent des auto-entrepreneurs. Enfin, bon, mais c'est pareil, on voit ça en fait dans plein d'autres champs économiques où on externalise parce que le salariat, on considère que ça coûte cher et moins de salariés, mieux on se porte, quoi. Donc, les patrons de presse, ils font pareil.
Tu parles aussi justement, à un moment tu dis non mais de toute façon on n'a pas le temps, on est tellement pris dans l'urgence qu'on n'a pas le temps de relire ce qu'on a écrit et du coup ça a donné lieu à une nouvelle forme, enfin un nouveau travail, c'est le fact-checking et du coup il y a des gens qui seraient préposés à la vérification des données, c'est ça?
Ouais, bah le fact-checking, il y a des grandes rubriques qui existent. C'est les décodeurs ou Check News. Les décodeurs, je crois même qu'ils ont été précurseurs en France avec Check News de l'arrivée du fact-checking. Et en fait, le fact-checking, c'est vérifier des informations fausses, enfin, c'est-à-dire des rumeurs qui circulent sur le web et on va vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Et en fait, ça, c'est issu d'une autre pratique qui existait au début du XXe siècle dans les médias, qui était en fait vérifier le contenu des articles avant l'apparition. Et le fact-checking tel qu'il a été remis au goût du jour. Et en fait, ces métiers-là ont été exclus des journaux à la fin du XXe siècle, quand il y a eu la crise économique de la presse. Donc, tous ces fact-checkers qui vérifiaient que les articles étaient vérifiés avant d'être publiés. Ils ont été virés des journaux. Il y en a quelques-uns qui en ont gardé, mais voilà, la plupart des grands médias ont exclu ces métiers-là. Ensuite, il y a eu la défiance et la crise, le scandale des armes de destruction massive en Irak qui a été repris par les grands médias. Donc, ça a créé de la défiance. Donc là, les médias se sont dit, ah, faut on se rachète une crédibilité. Donc, ils ont réembauché des fact-checkers. Mais ces fact-checkers, ils ont fait ce travail de vérifier l'information, mais chez les autres, c'est-à-dire un article faux. Je ne sais pas, par exemple, Le Monde, les décodeurs du Monde voient une fake news, en fait, c'est ça, hein, qui circule sur les réseaux sociaux ou qui est repris même dans d'autres médias. Ils vont en faire un article en disant, bah, on a vérifié, cette information est fausse. Donc, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que ces métiers ont été recréés. Parce que c'était une façon de racheter la crédibilité des médias à peu de frais. C'est-à-dire que ça reste des journalistes qui font un travail de bureau, donc du desk en fait, on appelle ça du desk, ils ont besoin d'Internet, d'un téléphone, et ils vérifient des informations qui circulent sur Internet. Ce qui est quand même beaucoup moins coûteux que lancer des enquêtes longues qui vont durer 6 mois ou envoyer des gens sur le terrain. Voilà, après le fact-checking, on peut le critiquer. Enfin, moi, j'en suis assez critique parce que je trouve que c'est vraiment une stratégie marketing et que bah, le monde, c'est assez criant. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont parfois faux, qui sont publiés sur Le Monde. Et à côté, en parallèle, on a les décodeurs qui font du fact-checking de ce qui se passe sur le web plutôt que cette compétence soit distribuée au sein de la rédaction. C'est-à-dire que les fact-checkers aillent aider tous les journalistes justement à vérifier le contenu des articles, à prendre le temps. Non, ils servent juste à aller surveiller ce qui se passe sur le web. Donc, bon, moi, je ne pense pas qu'en tout cas ça résoudra le problème de la crédibilité des médias, ni que ça marche dans la lutte contre les fake news d'ailleurs.
Alors, c'est quand même dingue parce que je ne sais pas combien de temps on parle, mais on n'a pas abordé une question qui quand même est centrale aujourd'hui dans le journalisme, c'est celle de la pub.
Ouais, bah, c'est vrai que beaucoup de médias, à part quelques médias indépendants, la plupart, ils sont financés par la publicité. Il y a même des nouveaux médias, là, d'ailleurs, qui m'énervent assez parce qu'ils se font passer pour des médias progressistes, mais typiquement Combini, c'est de l'information, enfin, c'est de la publicité déguisée en information, quoi. Ils ont des partenariats avec Coca-Cola, avec Orange. En plus, ils participent à la précarisation du métier puisqu'ils font travailler leurs journalistes en auto-entrepreneurs. Donc, ouais, la publicité, elle est très présente et elle est d'autant plus présente que, elle chute aussi, quoi. Enfin, les revenus publicitaires des médias chutent. Donc, ils rentrent encore plus dans cette logique de concurrence, pour, gagner les parts de marché publicitaire que leur concurrent prend. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est le cas dans les chaînes télé, quoi. Il y a 4 chaînes d'infos en continu. Donc, forcément, quand on est 4 à se partager le gâteau, bah, on va jouer des coudes.
Il y a aussi le fait que parfois on adapte carrément la maquette d'un journal à la publicité. C'est ce que tu racontes, il me semble, à un moment où tu dis qu'en fait on va écrire des articles pour laisser encore plus de place à la pub.
Ouais, alors ça, c'était le cas. Nous, c'était le cas pour le site web. C'est-à-dire que forcément, quand on crée un article, on crée une nouvelle page web. Et donc, dans une nouvelle page web, on peut mettre de la publicité. Mais c'est vrai qu'on nous avait demandé ça quand je travaillais dans un groupe de presse, quand j'étais salariée, que fallait créer, élargir l'inventaire disponible à la publicité. Donc, c'était ça, fallait créer des articles sur le web pour qu'à côté de l'article, il y ait une place pour une nouvelle publicité.
Là, tu as parlé de Combini et c'est bon, ça je connaissais, c'est un peu comme Brut, enfin, ces médias qui surfent un peu sur l'actualité, qui se donnent une caution assez progressiste, etc. Après, tu as parlé de quelque chose que je connaissais pas, c'est Melty.
Ouais, Melty, c'est un peu, ça avait beaucoup de succès il y a quelques années. Je pense qu'ils ont un peu perdu en audience. Mais c'est un peu le même modèle que Combini, sauf que c'est très axé pop culture et ça s'adresse plutôt aux adolescents. En fait, ce qui est assez intéressant, Melty, c'est pas tant l'importance qu'ils ont eue en tant que telle, c'est l'influence qu'ils ont eue sur les autres médias. C'est-à-dire qu'ils ont créé un algorithme qui permet de repérer les mots-clés qui marchent bien sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, je sais pas s'il y a Toyota, par exemple, je vais faire de la pub pour Toyota, Toyota qui fonctionne, qu'il y a beaucoup de recherches sur Google sur ce mot-là. Ils vont faire des articles autour de ce mot-là, donc sur ce sujet-là, pour que les articles soient bien référencés dans Google. Et cet algorithme-là, il a été vendu, par exemple, pendant un an, BFM, ils ont utilisé cet algorithme-là. Donc, ouais, Melty, c'est intéressant pour ça, c'est-à-dire que cette technique de repérer les mots-clés qui marchent sur les réseaux sociaux et après de capitaliser sur ce mot-là avec plein d'articles jusqu'à ce que ça ne marche plus. Ça a été inventé par Melty et ils ont inspiré pas mal des médias plus traditionnels avec cette stratégie-là.
Ce soir, nous sommes en compagnie de Sophie Eustache, qui est journaliste qui travaille pour Le Monde Diplomatique et La Nouvelle Vie Ouvrière et qui a aussi une émission tous les quatrièmes lundis du mois sur Fréquence Paris Pluriel, la suite au prochain numéro, et que nous recevons pour parler de son livre publié aux éditions Amsterdam en mars 2020, Bâtonner. Comment l'argent détruit le journalisme. Un autre domaine qu'on n'a pas abordé, t'en parles à la fin, c'est le mépris de classe dans le journalisme.
Alors déjà, il y a beaucoup de travaux de sociologie qui l'ont montré, et même la critique des médias que fait Acrimed depuis 20 ans, ils l'ont... Ouais, ça a été démontré plein de fois et en fait, ça se traduit soit par du mépris très direct, c'est-à-dire qu'on voit bien quand les journalistes, je sais pas, quand Philippe Poutou est interviewé, il n'est pas interviewé de la même façon que Carlos Ghosn. Léa Salamé fait une interview très complaisante de Carlos Ghosn. Donc voilà, ça c'est du mépris classe assez grossier, assez direct, mais il y a aussi de l'invisibilisation, c'est-à-dire qu'en fait, les classes populaires, les journalistes ne les voient même pas et ils les ont redécouvertes avec les gilets jaunes, mais pour eux, elles n'existent pas. Les ouvriers sont, c'est pareil, je ne sais plus les chiffres, mais ils sont dans le bouquin, mais ils sont très peu présents à la télé. Et les journalistes, en plus, ont tendance à traiter des sujets qui concernent leur classe sociale. Et c'est le cas là, avec la crise du Covid, ça revient de nouveau, mais la fermeture des stations de ski, ça inquiète tous les journalistes à Paris en ce moment, mais parce que c'est eux qui vont au ski. Mais je pense que là, les Français, ils ne s'inquiètent pas, c'est 8% des Français qui partent au ski et 40% des cadres. Donc oui, ça inquiète les cadres, ça c'est sûr, ils ne pourront pas aller à Courchevel cette année, c'est dommage. Ouais, ils défendent beaucoup l'intérêt de leur classe par le traitement médiatique, en fait. Ils font monter des sujets qui les intéressent, eux, et qui ne sont pas spécialement intéressants pour les ouvriers ou pour même les professions intermédiaires, quoi.
Là, tu parles de la télévision, surtout, ou c'est quelque chose qu'on retrouve dans la presse écrite ?
Ouais, on le retrouve dans la presse écrite. Après... je crois que je donne l'exemple dans le bouquin des caricatures qui avaient fait Plantu. En fait, c'était en 2004, il y avait eu une grève des chercheurs. Cette grève, elle avait fait la une du Monde pendant plusieurs fois, ce qui est quand même hyper rare. Et ça s'explique parce que les chercheurs, sociologiquement, ils sont proches des journalistes. Et dans la même période, il y avait eu une grève des travailleurs d'EDF. Et pendant cette grève, ils avaient coupé l'électricité à des logements qui appartenaient à des candidats, enfin à des adhérents de l'UMP et puis au bureau de l'UMP. Et donc Plantu les avait représentés comme des tortionnaires d'Abu Ghraib. Et donc là, c'est clairement du mépris de classe parce que, en effet, le traitement médiatique qui a été fait de ces travailleurs-là qui sont dominés par rapport aux chercheurs, il était à l'opposé, alors qu'ils défendaient la même cause, c'est-à-dire la défense d'un service public.
Pour ce qui concerne principalement les grands médias, est-ce qu'il y a un profil ? Est-ce que tu vois des traits communs à toutes ces personnes qui sont au premier plan, alors soit des journaux, soit des émissions télévisées
En tout cas, c'est des gens, à part peut-être quelques-uns qui se targuent d'être des transfuges de classe, mais la plupart viennent d'un milieu hyper privilégié. C'est pareil, le Monde diplomatique a fait une enquête sur France Inter où ils reviennent sur l'origine sociale de ces grands intervieweurs. Il me semble qu'ils le démontrent assez bien qu'ils viennent de milieux de la bourgeoisie. Et après, le trait commun, c'est quand même que c'est des gens qui, si on vraiment on personnalise, ils passent très facilement du privé au public. Enfin, je pense à Patrick Cohen qui fait des allers-retours à Europe 1, c'est pareil pour Demorand. Donc, on a l'impression que c'est aussi des gens qui servent leur carrière quand même. Bon, je pense que ça se voit et que c'est pas un scoop, mais... Ouais, c'est des gens de pouvoir. Hein. De toute façon, ils ont fait les mêmes écoles que les gens qui sont à la tête des partis politiques, enfin des grands partis politiques.
Pour toi, c'est quoi le journalisme aujourd'hui ?
En tout cas, je peux dire par quoi c'est dominé. C'est dominé par le journalisme de marché, c'est-à-dire un journalisme qui est payé. Par la publicité, qui recherche la rentabilité, qui appartient à des industriels. Après, il n'y a pas un journalisme, mais moi, je n'ai pas trop envie de défendre un bon ou un mauvais journalisme, mais plutôt des conditions. Il y a clairement des conditions dans lesquelles ça ne peut pas être un bon journalisme. Ça ne peut pas être un journalisme au service des citoyens si c'est financé, enfin si ça appartient à des grands industriels qui dépendent en plus des commandes de l'État. C'est le cas, c'est le cas de Patrick Drahi. Et pour moi, ça devrait être des entreprises à but non lucratif, sans publicité. Mais c'est un journalisme qui est clairement dominé par des logiques commerciales et. On ne peut pas faire de l'info de qualité dans ces conditions, je ne pense pas.
Et la censure que tu pointes, elle est liée à cet état de fait ?
C'est une censure économique. Jusque dans les années 80, c'est une censure politique qui existait avec l'ORTF. Et maintenant, on est clairement passé à une censure économique. Donc, soit des censures directes, et ça a été prouvé. Il y a eu l'affaire de Canal+, qui a dû censurer un documentaire sur le crédit mutuel qui était accusé d'organiser de l'évasion fiscale pour ses clients. Et ça s'est passé sur France 3 parce que Vincent Bolloré a eu un coup de fil de Michel Lucas, qui était à l'époque le PDG du crédit mutuel, et qui lui a dit « Non, tu passes pas ça sur ta chaîne ». Donc ça, c'est de la censure économique très directe, mais il y a aussi de l'autocensure, c'est-à-dire que c'était le cas, par exemple, pour la censure d'un dossier sur LVMH dans le magazine Géo-Histoire, où ils faisaient un dossier sur les grands patrons qui ont collaboré avec le régime nazi. Et donc, Louis Vuitton a collaboré. Sauf que Louis Vuitton, maintenant, c'est le plus grand annonceur, c'est le premier annonceur dans la presse magazine. Donc, la rédactrice en chef s'est dit que, pour l'intérêt économique de son journal, il valait mieux pas passer cet article sur la collaboration de Louis Vuitton avec le régime nazi. Bon, après, ça fait souvent scandale. Hein. Les syndicats font un tapage et puis ça fait effet stressant, c'est-à-dire qu'on parle plus. Ça donne aussi un coup de projecteur quand ça sort. Les censures, en général, elles passent pas inaperçues, mais les autocensures, si, quoi. À part celle-ci, parce qu'il y avait des syndicats en interne, mais il suffit qu'il n'y ait pas de syndicats et ça passe. Enfin, voilà.
Là, tu parles justement des syndicats. Quelle est la place du syndicalisme au sein du journalisme ?
Moi, je trouve qu'il n'est pas assez développé. je, crois que c'est 12% de syndiqués, donc c'est un peu plus que la moyenne nationale, mais ça reste minime. Et surtout, il y a toujours un peu ce côté. Je sais pas, je trouve ça un peu hypocrite, les journalistes. Par exemple, il y a plein de journalistes qui se syndiquent au SNJ. C'est le syndicat majoritaire qui est affilié à Solidaire. Et longtemps, ça a été un syndicat autonome, c'est-à-dire qu'il s'est affilié au moment où il y a eu la loi sur la représentativité. Donc, j'ai entendu certains collègues dire qu'ils se syndiquaient au SNJ parce que c'était neutre par rapport à. Moi, je suis syndiquée à la CGT, voilà, c'est considéré comme pas neutre. Et ce truc des journalistes qui se croient neutres et objectifs, ça m'agace assez. Enfin, ça me consterne même parce que vraiment. Enfin, c'est pas possible, quoi. Il vaut mieux avoir conscience de ses biais politiques que croire qu'on n'en a pas, quoi. Je pense que c'est plus sain.
La neutralité que tu pointes là, on a un peu l'impression que c'est celle aussi que dans le travail même, certains journalistes ou certains médias essaient de faire passer, c'est-à-dire que on donne les informations telles quelles. Regardez, regarde lecteur, ça c'est la réalité objective. Il n'y a pas du tout de point de vue. Enfin, je trouve qu'il y a de plus en plus ce côté-là où on essaie de faire oublier que derrière ce qui est écrit ou ce qui est dit, il y a quand même quelqu'un qui réfléchit et qui donne une certaine vision des choses.
Ouais, bah ça c'est un peu le fantasme aussi du direct, c'est-à-dire aller poser une caméra sur le terrain et dire regardez, c'est la réalité vraie, et même du fact-checking, hein, c'est-à-dire ce truc un peu positiviste où les faits parlent d'eux-mêmes, et il suffit de les montrer pour que les faits, voilà, que les faits parlent d'eux-mêmes, ce qui est enfin une aberration théorique, quoi. Et moi, je trouve ça hyper dangereux en plus parce que c'est vraiment na naturaliser l'information. Et j'ai fait une interview récemment d'ailleurs où le journaliste disait, oui, on ne dénature pas l'information. Et le mot dénaturer montrait bien à quel point les journalistes naturalisent l'information alors que c'est un truc qui est produit, le fait d'aller choisir de montrer tel événement et pas un autre, c'est un choix qui n'est pas neutre. Le fait de couper, même de faire un direct, en fait, il suffit de faire un direct dans une manifestation. On ne va pas raconter la même chose si on se met en tête de manif ou si on se met en fin de manif, si on va voir les syndicats ou si on va plutôt voir les policiers. Enfin, bref, la neutralité, ça n'existe pas, mais c'est vrai que beaucoup de grands médias essayent de faire croire à ça. Et du coup, personne n'y croit, donc en plus, ça les décrédibilise. Bref, c'est. Et ça, je ne sais pas si les journalistes sont sincères quand ils disent ça, si c'est un vrai manque théorique, ou si, bah, si ça fait partie de la mythologie, c'est-à-dire dans laquelle ils croient, c'est-à-dire que c'est des agents neutres qui vivent dans des bulles, ou si c'est une stratégie d'hégémonie, quoi. Je sais pas, j'ai pas tranché. Bon, pour certains, BFM, je me dis que c'est quand même une stratégie d'hégémonie de dire qu'ils sont neutres, mais.
Est-ce que quand tu parles de BFM et ITélé comme, bon, en gros, des chaînes de télé qui sont vraiment pas très recommandables, est-ce que ça, c'est ton avis ou parmi les journalistes, il y a une sorte d'accord entre vous oui, on sait très bien que ces chaînes-là, en fait, ceux qui y bossent, bon, c'est pour pouvoir manger, mais.
Alors, ça, c'est le problème aussi des hiérarchies qui peuvent se faire dans le journalisme. Mais ça, c'est vrai bien avant les chaînes d'information. Je pense que ça reste plus prestigieux pour bien des journalistes d'aller bosser au Monde que d'aller bosser à BFM. Mais après, en fait, mon livre, il a été écrit avant que CNews apparaisse. Et maintenant, CNews, ça fait assez consensus. Chez les journalistes, et ça se voit par le nombre d'articles qui a été produit dernièrement sur l'extrême droitisation de CNews, et que ça devient vraiment une chaîne, ça devient le Fox News français, que ça devient une chaîne pas fréquentable. C'était pas vrai à l'époque d'ITélé. Ouais, c'est pareil. En fait, ça reste plus prestigieux d'être présentateur à BFM que d'être desker. À BFM, enfin, il y a aussi des hiérarchies au sein de ces chaînes. Ça dépend à quelle place on est. Et Ouais, enfin, les hiérarchies restent les mêmes qu'avant, sauf que BFM, aujourd'hui, ils ont quand même de l'influence. Ils arrivent à imposer au reste, des médias des sujets. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui buzz sur BFM, les autres médias, vont se sentir obligés d'en parler. Ce qui n'était pas vrai, au début de BFM, où c'était une chaîne un peu méprisée. Maintenant, ils se sont quand même imposés dans le paysage. Ils arrivent à imposer, leur sujet.
Et parmi les différents supports aussi, alors chaînes de télé, radio, journaux et web, là aussi il y a une hiérarchie où ça dépend plutôt des noms des titres ou des noms de chaînes.
Non, dans un même titre, le web, souvent, il est quand même un peu méprisé par rapport au print. Le print, ça reste prestigieux. À l'époque où j'ai fait l'enquête, hein, mais je pense que d'après ce que j'ai entendu, les retours que j'ai eus de certains collègues, c'est toujours vrai, je pense, au Monde, à part peut-être le service de fact-checking, parce qu'ils ont une marque, bah, les décodeurs, voilà, ils ont leur propre logo, ils sont très mis en avant, même dans les stratégies de communication, du Monde. Sinon, ouais, le web, ça reste un peu, les petits forçats qui sont pas très reconnus, par rapport à ceux, aux journalistes, qui sont au print. Et après, c'est vrai au print au sein des différentes rubriques, c'est-à-dire que la rubrique politique ou internationale, elle va être beaucoup plus, reconnue comme beaucoup plus prestigieuse que la rubrique, je sais pas, la rubrique sport ou... Bon, voilà, il y a des hiérarchies, mais qui sont vieilles, enfin, qui remontent à un certain nombre d'années déjà.
Ce soir, nous sommes en compagnie de Sophie Eustache, journaliste, qui a publié en mars 2020 aux éditions Amsterdam un livre sur la marchandisation de l'information qui s'intitule Bâtonner, comment l'argent a détruit le journalisme. Comment tu vois l'avenir pour le journalisme français?
Alors ça, c'est toujours la question. Bah, en ce moment, je suis pas hyper optimiste, hein, parce que même par rapport aux lois qui sont en train d'être examinées, votées, par rapport au fait qu'il n'y a aucune volonté politique de lutter contre la concentration des médias. Moi, je pense que sans un mouvement social de réappropriation des médias et un mouvement de masse, ça sera perdu, quoi.
C'est
Aucune
vrai que...
réappropriation démocratique. Et il y a eu des appels à ça, mais on est assez isolé. Il y a Acrimed, le SNJ-CGT. Et bon, il y a Mediapart, ils font pas mal d'agitation quand même. Et là, ils sont très mobilisés contre la loi Sécurité globale. Mais bon, on reste minoritaire. Et pour l'instant, le rapport de force, il est tellement pas de l'autre côté. Là, en ce moment, enfin, depuis l'année dernière, il y a un serpent de mer qui continue à monter et qui va, je pense, se matérialiser, c'est la création d'un conseil de déontologie. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment une fausse bonne idée parce que c'est de nouveau traiter la question de l'information comme une question morale, alors que c'est avant tout une question matérielle. En bonne marxiste que je suis, je voudrais juste rappeler ça, que oui, c'est... Qui, enfin, pour qu'il y ait une information de qualité, il faut des moyens, il faut une information qui ne soit pas financée par la pub, qui appartienne pas à des intérêts privés. Le Monde diplomatique, ils ont fait un article qui s'appelle Projet pour une presse libre, où ils développent un peu un modèle de financement de la presse qui serait basé sur une cotisation sociale avec une sorte de méga service public, mais un peu sur le modèle de l'assurance maladie, c'est-à-dire une caisse d'information gérée par les travailleurs des médias, mais aussi les usagers des médias. Et donc, ouais, je trouve que c'est un modèle intéressant à diffuser et que voilà, le conseil de déontologie, vraiment, c'est une idée, c'est une mauvaise idée. Enfin, ça réglera rien, quoi.
C'est quoi exactement le conseil de déontologie? Ça rassemblerait qui à peu près? Les grands patrons de presse ou
Alors, pour l'instant, ils ont invité les syndicats, des assos de journalistes. C'était porté par l'ancien président de l'AFP. Mais c'est un truc porté par le pouvoir, hein.
Oui, ça d'accord, mais qui
Non,
aurait
pour
que...
l'instant, ça rassemble les représentants des salariés.
Et
Oui, c'est ça, les syndicats et les...
ça aurait quelle finalité en fait?
Bah, c'est ça que j'ai un peu du mal à voir, c'est surveiller en fait la production. C'est une sorte de CSA, mais pour la presse écrite. Enfin, c'est l'analyse que j'en fais comme ça. Donc pour moi, c'est ouais, une nouvelle instance Théodule qui servira vraiment de plutôt pour la communication en disant regardez, on surveille le traitement et on a un regard, on fait de l'autocritique, mais qui change rien aux réalités structurelles de l'information.
Avec un désir de contrôle.
Avec un désir de contrôle, bah de, ouais, de surveillance de ce qui est publié. Et
OK.
que du coup, les journalistes auront à rendre des comptes devant ce conseil de leur production.
Journaliste, quel que soit le support.
Oui, a priori.
En même temps, c'est déjà plus ou moins le cas. On a quand même l'impression que le gouvernement contrôle une partie de la presse et des médias.
Ouais, alors qu'en vrai, il n'a même pas besoin. Enfin, à la tête, à la tête de ces médias, c'est toujours le problème, quoi. C'est-à-dire que BFM, ça appartient à Patrick Drahi. Patrick Drahi, il a des intérêts. Enfin, il y a des intérêts communs entre les télécoms et l'État. Et c'est le cas pour Vincent Bolloré. Il y a des intérêts communs entre les affaires de Vincent Bolloré en Afrique et l'État. Donc, il y a ça qui joue. Après, il y a un truc qui est spécifique aux chaînes d'info en continu françaises, c'est la place des plateaux d'experts et des plateaux d'éditorialistes. Et ça s'explique un peu sur le modèle économique de ces chaînes, qui sont des chaînes low cost. Et faire un plateau avec des invités, des éditorialistes qui remplissent l'antenne, c'est beaucoup moins cher que d'envoyer pareil, que de faire des documentaires, que de faire du reportage, que de faire des enquêtes. Donc ça, forcément, les gens qui sont toujours disponibles pour aller à la télé 24 heures, enfin presque 24 heures sur 24, passer de CNews à BFM, c'est des gens qui sont des professionnels du commentaire et forcément les gens qui travaillent, même bon, d'une, ils sont pas invités, mais en plus, qui a le temps d'aller déblatérer à la télé à part ces gens mondains
Mais
qui sont consultants.
qui sont grassement payés, quand même. Tu dis que c'est moins cher, mais c'est quand même pas donné d'inviter Natacha Polony pour qu'elle donne son avis sur un sujet qu'elle maîtrise pas.
Alors, ça dépend. Ça, c'est un truc que j'ai un peu du mal à démêler. Je sais qu'à CNews, les invités réguliers, ils sont payés. Je ne sais pas si un invité ponctuel, il est payé. Mais non, ça reste quand même. Je pense que ça reste. Enfin, j'ai interviewé quelques. Enfin, j'ai interviewé un sociologue qui a travaillé là-dessus sur les chaînes d'info continue et plusieurs journalistes. Qui ont bossé dans ces chaînes et ils disent que quand même c'est un dispositif moins coûteux que envoyer des équipes et faire du reportage quoi. Mais parce que je pense qu'ils sont pas tous payés hein, les invités hein.
OK.
Les experts réguliers oui, les éditorialistes réguliers oui. Donc ceux qui sont là quotidiennement mais ceux qui viennent ponctuellement non.
Il y a une autre chose aussi qu'on n'a pas abordée sur l'avenir du métier de journaliste, c'est l'automatisation en fait, qui est en train de se produire,
Ouais.
où tu dis qu'en fait, bientôt il y aura des robots, si ce n'est pas déjà le cas, qui pourront écrire des articles comme ça sur demande, quoi.
Ouais, il y a déjà des robots qui font ça. Le Monde, ils avaient fait écrire par des robots les résultats des municipales. Je ne sais plus en quelle année, les dernières municipales, je crois. Et ça, alors l'argument derrière ça, moi, c'est l'argument que m'avait donné une directrice d'école de journalisme, là, de Sciences Po journalisme, que c'était bien que ça allait libérer les journalistes qui font ce travail aliénant de copier-coller des articles, que ça allait leur permettre de faire de l'enquête. Bon, moi, je suis pas sûre, je pense que ça va juste permettre de couper des postes si on reste dans cette logique économique-là. Après, si c'est des robots au service de sociétés non lucratives qui vont juste servir à, en effet, automatiser l'analyse de certaines données hyper complexes, pourquoi pas? Mais je sais que ça ne va pas servir à ça dans le modèle économique tel qu'il est.
À part sur Fréquence Paris Pluriel, on va où pour trouver de l'information et de la vraie?
Bah, les médias indépendants sont moi. Alors, je vais dire ce que je lis moi. Moi, je lis Le Monde Diplo, je lis Mediapart, je lis Canard PC, mais ça, c'est sur les jeux vidéo. Et ils ont une analyse politique en fait de l'industrie du jeu vidéo, donc c'est assez intéressant. Je lis CQFD, c'est les trucs auxquels je suis abonnée, ça. Après, moi, je lis aussi la presse mainstream parce que bah, je les critique, alors il faut que je les regarde et que je les lise. Et je pense que ce n'est pas inintéressant en fait de savoir ce qui se dit. Parce qu'au final, vu qu'ils racontent ce que pense quand même le pouvoir ou les classes dominantes, c'est intéressant de savoir ce que pensent les classes dominantes, surtout si on veut les combattre. Donc, moi, je conseille d'être quand même. Ouais, de lire même. Bon, CNews, ça devient quand même hyper difficile parce que c'est quand même la haine en roue libre. BFM, moi je trouve les interviews de Bourdin assez marrantes, mine de rien. D'ailleurs, le youtubeur Usul, il les analyse et ça permet trop bien de comprendre comment c'est un système qui s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'il va poser aux politiques des questions qui sont des questions polémiques pour avoir une petite phrase. Cette petite phrase, elle va être redécoupée et elle va être partagée sur les réseaux sociaux. Et il suffit que ce soit commenté, et après on va réinviter des politiques pour commenter la petite phrase du matin, et ça va devenir un événement en soi. Et si ça devient un événement en soi, ça va être repris dans les journaux. Bah, Le Monde va faire un article consacré, par exemple. Là, je donne. Et je trouve que cette production complètement artificielle d'événements, c'est intéressant de la regarder et de l'analyser pour qu'on. Enfin, ouais. Pour comprendre à quel point c'est impossible de produire un discours un peu vraiment politique au sens politique avec un grand P, pas politicienne justement, parce que ces journalistes-là, vu qu'ils cherchent quand même l'audience et la rentabilité, même s'ils s'en défendent, ils vont chercher la phrase polémique qui va pouvoir être reprise. Et c'est pour ça que je disais aussi que BFM arrive maintenant à imposer ses sujets. Aux médias traditionnels et à la presse écrite, parce qu'il y a toute cette stratégie et cette division du travail qui fait que bah, Bourdin il va faire une interview, l'interview elle va être reprise par les deskers justement qui vont faire des articles de ce qui est dit à l'antenne, ces articles et ces petites phrases vont être partagées sur les réseaux sociaux et à la limite tout ça buzz sur les réseaux sociaux, les autres médias vont se sentir obligés d'en parler, de demander à l'opposant politique ce qu'il pense des commentaires qui ont été faits le matin à l'antenne. Donc voilà, c'est un système en vase clos.
Est-ce que tu as eu peur, à un moment, en publiant ce livre, de te griller dans la profession?
Alors non. Parce que ça fait un moment que j'ai abandonné l'idée de vouloir travailler dans les médias que je critique. Enfin, en fait, pour l'instant, les médias pour lesquels je travaille, c'est Le Monde Diplo et la presse de la CGT. Et ça me convient très bien parce que c'est toujours un compromis un peu moral. Bon, j'aime pas ce mot-là, mais entre arriver à en vivre et en même temps pas complètement aller bosser pour des gens avec lesquels on ne se sent pas en phase. Mais c'est compliqué hein, parce que moi j'ai tendance à défendre l'idée que les journalistes sont des salariés comme les autres et si on est des salariés comme les autres, est-ce qu'on peut choisir l'employeur par exemple parce qu'on ne va pas reprocher à un autre salarié d'avoir choisi tel employeur et pourquoi les journalistes on pourrait leur reprocher et moi en même temps j'ai quand même des limites. Enfin, bon, je sais pas, c'est un peu une contradiction que je trouve dans mon raisonnement enfin, que oui, les journées sont des salariés comme les autres, subordonnés et du coup pas libres de la ligne éditoriale, d'imposer la ligne éditoriale à leur patron. Et en même temps, je trouve qu'il faut quand même choisir. Enfin, voilà, moi, j'irai jamais bosser pour Valeurs Actuelles. Et dans ce cas-là, à la limite, on pose une limite, c'est qu'on considère qu'on n'est pas des salariés comme les autres. Bref.
C'était l'essentiel de l'émission intitulée Bâtonner, comment l'argent détruit le journalisme, entrevue avec Sophie Eustache, réalisée par Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. Comme je l'ai lu au début, le descriptif de l'émission était: Cette semaine, dans Les Oreilles Loin du Front, nous avons reçu Sophie Eustache, qui est journaliste notamment pour le monde diplomatique et co-animatrice de l'émission La suite au prochain numéro sur Fréquence Paris Pluriel. En mars 2020, elle a publié aux éditions Amsterdam « Bâtonni, comment l'argent détruit le journalisme ». Nous sommes revenus avec elle sur le sens de ce verbe « bâtonner », entre guillemets, sur le fonctionnement actuel des médias, sur les conditions de travail précaires de nombreux et nombreux journalistes, sur tout le mal que le néolibéralisme fait à une information de plus en plus marchandisée. C'est tout pour En profondeur aujourd'hui sur CKUT.ca 90.3 FM. Merci d'avoir été avec nous et continue d'écouter nos émissions.
Hey, this is Roxanne Shanté, and of course you know I am listening to CKUT 90.3.
The rhymes you're about to hear me recite are dedicated to all of those that bite.
The spread of COVID-19 is at a critical level in your area or a neighboring region. Getting together with family or friends is prohibited, and traveling to other regions is not recommended. More targeted restrictions have been put into place to limit the spread and prevent a lockdown. Learn more at quebec.ca/coronavirus. Continue to wash your hands, keep a 2-meter distance, and wear a mask when physical distancing is impossible. We need to act now. A message from the Gouvernement du Québec.
Are you a queer artist or activist in the Montreal area who wants a platform to discuss your work? Interested in producing radio for Queercore on CKUT? Send an email to queercoreradio@ckut.ca. That's queercoreps radio@ckut.ca.